7h41 sur France Culture et nous recevons dans les matins un écrivain, un journaliste, journaliste à Charlie Hebdo et à Libération, Philippe Lançon, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un très beau livre, Le Lambeau, c'est aux éditions Gallimard et s'il fallait trouver un point d'entrée dans ce livre, eh bien ce serait un personnage littéraire, un écrivain, Michel Houellebecq, pour différentes raisons, on va en discuter avec vous, vous évoquez ce personnage de Houellebecq et notamment une interview, l'interview qu'il a donnée au 7-9 de France Inter, c'était au micro de Patrick Cohen, le 7 janvier 2015, on en écoute un extrait.
Ben, je dis qu'ils sont dans une situation, les musulmans, ils ne peuvent plus voter à gauche.
Mais attendez, les musulmans, ça ne veut rien dire, Michel Houellebecq. Les...
Mais si, ça veut quand même dire un peu
non,
quelque chose.
Il n'y a pas une communauté homogène.
Non,
tous ne sont pas pratiquants, beaucoup, la plupart, je ne sais pas, enfin, se considèrent d'abord comme des citoyens français. Vous essentialisez les musulmans prêtant une volonté politique.
Je parle de ceux qui sont pratiquants. Mettez-vous à la place d'un musulman croyant et pratiquant. Peut-il voter pour un parti qui met en place le mariage homosexuel.
Je rappelle que les musulmans en France, c'est 5% de l'électorat.
Pourquoi Houellebecq, notamment Philippe Lançon, vous l'expliquez? Parce que la dernière conférence de rédaction de Charlie Hebdo, avant l'attentat, juste avant l'attentat, il était question de Houellebecq.
Oui, et après cet entretien qu'on vient d'entendre sur France Inter. Et voilà, on était... oui, ça a été... quasiment le dernier sujet qui a été abordé à la conférence d'action, qui a fait l'objet d'une engueulade à la Charlie, c'est-à-dire une engueulade sympathique, mais ferme. Nous n'étions pas tous d'accord. Je raconte effectivement dans le livre assez en détail, en tout cas tel que je m'en souviens, cette conférence, et en particulier le fait que nous étions deux à avoir lu le livre, Bernard Marie, c'est moi. Les autres ne l'avaient pas lu puisqu'il n'était pas encore sorti. Et bien sûr, tout le monde avait tout de même ses idées sur Houellebecq et même sur ce livre, qu'on l'ait lu ou pas.
Les journalistes ont des avis sur tout. Vous le dites d'ailleurs, vous moquez beaucoup de notre profession. Vous avez également des mots assez durs pour décrire les certitudes que nous avons, que nous diffusons. Sur... Houellebecq, notamment sur cette interview de Houellebecq, vous dites que le mot essentialisé et cette sorte de dialecte, notamment comme le dit Genette qui nous a quitté récemment, ce spécialiste de littérature. Et finalement, on voit au travers du personnage de Houellebecq comment la littérature envahit votre vie, y compris dans les moments les plus tragiques.
Genette, il appelait ça le médialecte, en fait. Et bien entendu, étant journaliste, je l'ai pratiqué comme la plupart de mes collègues à différents moments, et sans doute que je le pratique encore. À ce moment-là, ce qui était intéressant et qui est devenu terrible, c'est que finalement, tout s'est uni. C'est-à-dire, il y avait à la fois un phénomène médiatique, comme on dit, qui était Houellebecq qui sortait ce jour-là son livre « Soumission ». Il y avait... un écrivain qui est Michel Houellebecq et qui écrit des livres qui sont très importants parce que il trouve des formes romanesques pour mettre les pieds dans le plat. Et son problème n'est pas celui d'un essayiste, c'est celui d'un... Il passe par la fiction pour ouvrir l'imagination des gens au monde dans lequel ils sont. Et il le fait à sa façon, avec probablement ses idées. Je dis probablement parce que on ne sait pas exactement ce qu'il pense. On peut, vous voyez. Et donc, il y avait ça. Et puis, il y a eu l'attentat, c'est-à-dire une brusque irruption d'une réalité absolue, terrible. Et tout ça s'est mélangé.
Cet attentat, vous le décrivez ainsi, dans le chapitre 5, Philippe Lançon, les morts se tenaient presque par la main, le pied de l'un touchait le ventre de l'autre, dont les doigts effleuraient le visage du troisième qui penchait vers la hanche du quatrième, qui semblait regarder le plafond, et tous, comme jamais et pour toujours, devinrent dans cette disposition mes compagnons. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre, Philippe Lançon ?
Parce que c'est un acte de mémoire et un récit, c'est-à-dire sous forme de récit. C'est-à-dire, pourquoi avoir décidé d'écrire ? C'est très difficile de répondre à cette question. Un livre, on ne se réveille pas un matin en se disant on va l'écrire. Surtout quand, comme moi, on a passé tant de temps à l'hôpital et où on est encore dans un circuit hospitalier au moment même où on écrit ce livre, le livre, même si c'est un circuit beaucoup plus allégé. Et donc, le livre fait partie d'une expérience. À la fois, il l'accompagne, il lui donne sens, et d'une certaine façon, il la conclut. Donc, mais il la conclut très probablement, je suis le plus mal placé pour en parler, en essayant de la sublimer, c'est-à-dire en lui donnant une forme, et comme je suis écrivain, en lui donnant une forme écrite. Voilà.
Et au fil des semaines, comme vous avez continué à écrire dans Libération, dans Charlie, et on a l'impression que la France tout entière, enfin ceux qui lisent Charlie, qui lisent Libération, ont suivi les différentes étapes de votre reconstruction, de votre retour parmi les vivants, Philippe.
Oui, mais il y a une grande différence entre, en tout cas à mon avis, entre les chroniques que j'ai pu faire et que je continue à faire dans Charlie, qui effectivement était une sorte de journal de la reconstruction, et le livre qui arrive à une étape différente et qui est une, en même temps, un récit d'un homme qui a été victime d'un attentat et qui fait le point sur sa vie à partir de cet attentat et autour de lui. Qu'est-ce qu'était ma vie d'avant ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Et donc, qui va beaucoup plus loin que je n'ai pu le faire, et donc sous une autre forme que j'ai pu le faire dans les chroniques, parce que tout simplement se pose la question de la mémoire. Quel est le lien que j'avais à la vie d'avant, sachant que j'avais vraiment des gros problèmes, non pas de mémoire, de problèmes techniques après l'attentat sur ce que j'avais vécu avant, mais un problème presque de sensation à cette mémoire. Je ne la sentais plus. C'était comme si l'homme que j'avais été, et dont je me souvenais parfaitement, d'un autre côté n'existait plus. Donc il fallait, vous voyez, c'est de même que les nerfs, quand on est mutilé ou comme dans mon cas, sont coupés et doivent repousser très très lentement, de manière d'ailleurs relativement extravagante, c'est-à-dire ils repoussent comme ils peuvent, hein, les nerfs, très lentement et en prenant des canaux qu'on n'attendrait pas, ce qui crée des sensations bizarres. De la même façon, la mémoire et la sensation de la mémoire et de la continuité avec la vie d'avant repoussait d'une manière particulière dont j'ai essayé de faire le récit. Voilà, puisque c'est un récit.
Et c'est effectivement le récit aussi d'une remémoration, comme vous le dites, Philippe Lançon, la manière dont les uns et les autres vont vous aider à reconstruire les moments passés juste avant l'attentat, les moments passés, par exemple, pour une soirée au théâtre.
Oui, puisque le hasard a voulu que la veille, hasard dirigé, puisque le théâtre, j'y allais quand même assez souvent, a voulu que je sois au théâtre. Je suis allé voir La Nuit des Rois de Shakespeare avec une amie. Et donc, c'est devenu un moment très important pour moi, puisque c'est finalement mon dernier moment de vie sociale, si j'accepte évidemment la réunion de la conférence de rédaction de Charlie du matin. Mais disons que ma vie sociale proprement dite, elle s'est arrêtée à La Nuit des Rois de Shakespeare. Voilà. Donc, que j'ai vu la veille dans un théâtre de banlieue à Ivry. Et effectivement, j'ai mis un certain acharnement à reconstituer cette dernière soirée, d'abord dans ma tête très longtemps, puis après pour en faire une fois de plus ce récit.
Il y a une forme de collage d'ailleurs, vous reproduisez dans cet ouvrage, dans Le Lambeau, Philippe Lançon, par exemple ce que le metteur en scène vous dit sur la manière dont vous étiez interrogé sur cette pièce.
Lettre. Sur des mots. Sur certains des mots qui m'avaient marqué, puisque j'avais pris des notes, que j'avais un peu de mal à décrypter après, et que j'ai redécrypté donc plus de 2 ans après. Et je lui ai écrit pour savoir comment s'il se souvenait de nos conversations et des mots de Shakespeare que je lui avais demandé d'identifier. On avait parlé des traductions, vous voyez, et donc je voulais absolument comprendre quels étaient ces mots, ce qu'ils pouvaient signifier. Voilà, en fait, peut-être d'une certaine façon, non pas donner sens, mais faire récit du hasard.
Le hasard avec toute une série de significations qu'il prend pour la pièce de théâtre, pour Houellebecq dans le contexte particulier où il a été interviewé, les derniers mots des camarades, je pense par exemple à Volinsky, puisque bon, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous, comme Cabu, comme tous les autres, Philippe Lançon.
Oui, c'est ça, c'est les détails, vous voyez, tous les détails qui font la vie, qui font nos vies, et évidemment qui sont orientés, puisque ces détails, voilà, moi j'étais un journaliste critique littéraire, critique dramatique aussi, donc qui allait au théâtre et d'art, donc effectivement toutes ces choses-là qui font ma vie, si j'avais été charpentier... Je pense qu'on aurait parlé de table avec des collègues charpentiers la veille, vous voyez, mais c'est au même titre qu'une table ou une paire de chaussures ou, vous voyez, des choses extrêmement concrètes. Il se trouve que c'était ces choses qui faisaient ma vie et qui faisaient la vie d'un certain nombre des gens qui étaient autour de moi, d'une manière, pas de la même façon que moi, mais voilà. Et donc, ces choses-là, il était très important pour moi de, à la fois de les restituer, mais surtout de, vraiment de les faire vivre dans un récit. L'important, vous comprenez, c'est la vie. C'est pas la morale. C'est même pas le sens qu'on peut donner exactement aux choses. En tout cas, pas pour moi. Par contre, ce qui est important, et c'est de trouver la manière d'écrire ces choses pour leur donner, à la fois faire sentir le sens de la rupture qui a eu lieu tellement violente, et en même temps d'essayer de rétablir une continuité qui est simplement de l'ordre de la vie.
On se dit quand même qu'il faut une force incroyable pour écrire ce livre-là, pour avoir aussi le courage de parler de tous ces gens, de tous ces amis qui ne sont plus là.
Il m'a fallu quand même un peu de temps. Il m'a fallu 2 ans pour m'y mettre à l'écrire véritablement. Pendant 2 ans... D'abord, je me reconstruisais, comme on dit, chirurgicalement, probablement psychologiquement, puisque j'étais aussi suivi par des psychologues. Et d'autre part, trouver la forme pour le dire, sachant que je faisais parallèlement mes chroniques pour Charlie, comme vous le disiez. Donc, il m'a fallu du temps. Le plus dur, très probablement, dans l'écriture d'un livre comme celui-là, c'est de décider de s'y mettre.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu, pas voulu écrire, Philippe Lançon ?
Non, parce que il y a des choses que je n'ai pas écrites, mais je pense qu'elles relèvent de l'ordre du récit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai pas écrites tout bêtement, soit pour ne pas ennuyer le lecteur, pour ne pas, parce qu'il y a un aspect très répétitif dans la reconstruction hospitalière que je pense on sent, que j'ai voulu faire sentir, mais j'ai pas non plus voulu le faire sentir au-delà de ce que le lecteur pouvait supporter. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. Après, pour répondre encore à votre question, si on prend par exemple la description de l'attentat, je n'ai décrit strictement que ce que j'ai vu. Donc ce que j'ai vu y est. Je n'ai pas évité de décrire des choses que je n'aurais pas vues, particulièrement horribles. Voyez, je pense que mon champ de vision était très limité, que mes perceptions étaient très limitées, et que j'ai vu des choses déjà assez horribles que je raconte dans le livre. Et s'il y en a d'autres que j'ai vues et que je n'ai pas écrites, c'est que je les ai oubliées.
Il y a différents personnages, les membres de l'équipe de Charlie, les femmes de votre vie aussi, dont vous parlez, Philippe Lançon.
Oui, parce que quand on a, en tout cas, moi ayant vécu un événement comme celui-là, tous les amis Et si j'ose dire, toutes les couches de mes vies précédentes, je suis comme tout le monde, j'ai une vie et à l'intérieur de cette vie, il y a eu des vies, vous voyez. Et bien les gens sont réapparus dans cette chambre d'hôpital, un peu comme sur une scène de théâtre finalement, vous voyez, où les personnages se succèdent, mais sauf qu'ils revenaient, et ils revenaient d'ailleurs comme dans une pièce de théâtre, où ils reviennent et ils reviennent. Et donc, c'était très étrange, puisque comme je vous le disais, je n'avais plus entièrement accès sensible à cette vie. Donc, et en même temps, les amis, des femmes que j'avais aimées, des amis, des compagnons, plus tous ceux qui m'écrivaient, resurgissaient, mais parfois de 30 ans en arrière, vous voyez. Et donc, c'était très étrange, parce que j'étais comme une sorte de dinosaure, échoué sur un lit d'hôpital, qui avait l'impression d'avoir 1000 ans à certains moments, et en même temps d'être un nouveau-né.
Et finalement, le retour à la vie, il se fait avec des scènes qui sont des scènes a priori anodines quand on est ailleurs que dans une chambre d'hôpital. Je pense par exemple à vos disputes avec l'une de vos compagnes.
Ma compagne de ce moment-là, Gabriella, oui, oui. Eh bien oui, c'est un chapitre qui s'appelle « Scène de ménage ». De manière un peu, enfin, tout à fait ironique aussi, parce que tout simplement, dans cette chambre d'hôpital où, à une certaine période d'une dizaine de jours, qui était très très dure pour moi, puisque je relevais d'une greffe vraiment particulièrement difficile, je ne pouvais pas parler, et Gabriella était dans ma chambre, c'est-à-dire qu'on lui avait installé un lit. J'avais ce privilège qui est très rare à l'hôpital, puisque c'est normalement réservé aux mères ou aux pères des enfants en bas âge. Et donc très vite, elle s'est retrouvée prise dans un univers extrêmement dense, rythmé par des opérations et des interventions et permanentes. Et elle ne trouvait pas sa place, elle avait beaucoup de mal à trouver sa place, et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, les protestations qu'elle avait contre moi, justifiées ou pas, c'est pas la question, moi je raconte ça, c'était aussi une manifestation de la vie. Et finalement, ces scènes de ménage qui pouvaient être épouvantables au moment où elles avaient lieu, les disputes qu'on pouvait avoir, donc muettes, hein, puisque moi je ne pouvais pas parler.
J'écrivais.
Elle parlait et puis moi j'écrivais. Et bien finalement, je pense maintenant qu'elle me remettait aussi dans l'existence. D'une manière pénible, hein, je le concède, mais en même temps réelle. Et je me souviens que même en direct, on finissait toujours malgré tout par en rire, et moi le premier.
Et puis, il y a un personnage féminin qui apparaît, c'est la chirurgienne qui s'est occupée de vous, Chloé.
Oui, oui, que j'appelle la fée imparfaite. Et qui continue à être ma chirurgienne de référente. Et donc qui a présidé totalement à ma reconstruction, mais il se trouve aussi que, je pense, son caractère, sa culture, son humour ont fait que on pouvait se parler. Vous voyez, c'est-à-dire que nos relations ne se sont pas réduites au bloc.
Vous écrivez, on en parlera tout à l'heure, Philippe Lançon, vous écrivez « La plupart des entretiens avec des écrivains ou des artistes sont inutiles, ils ne font que paraphraser l'œuvre qui les suscite, ils alimentent le bruit publicitaire et social. Par fonction, je contribuais à ce bruit, par nature, il me dégoûtait. » On va voir aussi dans quelle mesure il peut y avoir un autre rôle de la critique littéraire, puisque justement dans votre livre, dans Le Lambeau, il est beaucoup question de critique littéraire, de littérature tout court, et on se retrouve vers 8h20 pour continuer à l'évoquer. Il est 8h sur France Culture, je vous souhaite un bon réveil.